Bonjour à tous. Alors si c'est le moment pour vous, détendez-vous, levez-vous, aérez-vous, parce que j'ai l'habitude de prêcher en Afrique, mais pas en France. Et en Afrique, on a autant de temps qu'on veut. Donc, non, c'est une blague. Alors j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse partager autour d'un psaume. Alors j'ai tremblé tout à l'heure quand Jonathan a dit le psaume qu'il allait lire, mais heureusement c'est pas le même. Enfin bon, si ça avait été le même, on aurait dit ça a été conduit. Il s'agit du psaume 40. Psaume 40, un psaume du roi David. Et avant qu'on le lise, je voudrais juste parler juste deux mots de la structure de ce psaume. En fait, il est construit comme un flashback. Vous savez ce que c'est un flashback? C'est quand on montre la fin dans un film et ensuite on revient au début. Et alors ça commence par la joie de la délivrance et la louange à Dieu pour son intervention, et on va juste le lire. Et puis il se termine par la situation initiale, une situation de tension, de haute tension pour David. Et c'est cette situation-là qui a conduit Dieu à intervenir. Et au milieu, donc il y a trois strophes, au milieu une strophe qu'on pourrait qualifier de la strophe du salut, ou la strophe de l'engagement que Dieu attend de notre part. Alors je vous propose donc d'étudier le texte à l'envers. Ce n'est pas courant, mais on va le faire à l'envers. Et il y a trois mouvements. Il y a d'abord le dernier mouvement, qui est en fait le premier chronologiquement, qui concerne les versets 13 à 18. Ensuite, on va lire les versets 7 à 12, et on finira par le début, versets 1 à 6. Et j'ai intitulé un peu ces trois mouvements de la façon suivante. Le premier mouvement, du verset 13 au verset 18, je l'ai intitulé « Je ne vois plus rien ». Alors, on va le lire tout de suite. « Oui, des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, Éternel. Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissent, ceux qui cherchent à m'enlever la vie. » Qu'ils reculent et rougissent, deux fois, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient pétrifiés de honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Alors ce « Ah ah !» je ne sais pas comment vous le diriez, mais moi je le comprends comme un « Ah ah !» de... Comment vous le comprenez, tiens, d'ailleurs? Non, pas comme ça. C'est un « Ah ah !» un peu de moquerie, un « Ah !» de... Bouh, voilà. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Voilà, ce premier mouvement, je l'ai intitulé « Je ne vois plus rien » à partir du premier verset où David dit « Je n'en supporte pas la vue ». Il ne se porte plus la vue de ses fautes, des maux qui l'environnent, et une autre des traductions qui existent, c'est « je ne vois plus rien ». Et c'est clair que le roi David a vécu des moments très difficiles dans sa vie, et c'était notamment un fugitif qui était traqué par le roi Saül, qui pensait qu'il allait le menacer, donc il cherchait à le tuer. Et dans ces quelques versets, on ressent le rythme qui est un peu haletant. David perd son souffle, ainsi que ses espoirs. Il dit « mon courage m'abandonne ». Quand il dit qu'il ne voit plus rien, que son courage l'abandonne, eh ben pour moi, je peux me sentir très proche de lui. Parce qu'on a tous, et on passe tous, par des circonstances de vie plus ou moins compliquées. Et dans combien de situations avons-nous l'impression de ne plus rien voir, de plus réussir à se projeter? On dit qu'on a le nez dans le guidon. D'être sans une vision claire de ce qui va arriver ensuite, du moment où la situation va changer. Peut-être c'est ce que vous vivez ce matin. Peut-être vous êtes en pleine joie, et là tant mieux, vous êtes au début du psaume, et on va y venir. Mais peut-être vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à voir ce qui va venir après. En plus de ça, alors on n'a pas trop de détails sur les maux qui environnent David, mais on les connaît par ailleurs. Mais on sait que David avait en fait de nombreux problèmes relationnels, si on peut parler de façon moderne comme ça. Et peut-être c'est aussi votre cas ce matin. Peut-être vous êtes fâché avec quelqu'un, peut-être vous parlez plus. Ça peut arriver jusque ça, on connaît les histoires de famille des fois. des amitiés rompues. J'espère que vous n'en êtes pas arrivé au même point que David, parce que à son niveau, les gens lui en veulent énormément, c'est-à-dire qu'ils veulent le tuer. Donc j'espère qu'il n'y a pas de contrat sur vos vies ce matin. Mais en tout cas, David est pris dans des situations suffisamment dangereuses pour qu'il supplie Dieu d'intervenir, et surtout de ne pas tarder. Et cette question de ne pas tarder, ça m'a fait réfléchir. Combien de fois avons-nous l'impression que nos circonstances, telles qu'elles sont, elles mériteraient une intervention un peu plus rapide de Dieu ? Que c'est une question de vie ou de mort ? Dans le cas de David, c'était physique, mais peut-être dans notre cas, c'est au niveau de notre travail, de nos relations, de notre argent. Dieu ne tarde pas. Alors que fait David ? Bien sûr, il a des doutes, mais il cherche la force dans sa foi en Dieu. Et au verset 18, il semble capituler, il dit « Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. » Ce verset est en fait la clé du changement pour lui. C'est à ce moment-là où il reconnaît qu'il est pauvre et malheureux que Dieu peut intervenir. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne dans nos vies généralement. Il faut d'abord reconnaître qu'on n'arrive pas à s'en sortir par nous-mêmes. Et ça, c'est la première étape pour qu'il puisse se manifester. David proclame ensuite un peu comme un cri du cœur ou un cri de la dernière chance. « Tu es mon aide et mon libérateur. » Et dans le même temps, on sent très bien la tension dans ces versets. Il lui dit « Ne tarde pas. » Autrement dit, je sais bien que tu peux me sauver, tu as le pouvoir, tu l'as montré pas mal de fois. Mais bon, prends pas trop ton temps quand même. Et là, on comprend que David, c'est un humain comme nous autres. Il a beau être, à l'époque, il n'était pas encore le roi, il a beau être quelqu'un d'assez exceptionnel, il est passé par les mêmes difficultés et les mêmes tensions que nous. Et on pourrait même être choqué, il y a d'autres psaumes où, David apostrophe Dieu d'une façon assez directe. Et, en cherchant des commentateurs des psaumes, je suis tombé sur un commentateur un peu spécial qui s'appelle Bono. Est-ce que Bono, ça vous dit quelque chose ? Quelle culture ! Bono est le chanteur de U2. U2, ça vous dit quelque chose ? Ah, ouais, quand même. Eh bien, Bono, il est devenu fan des psaumes quand il avait 12 ans. Alors, c'est une rockstar. Hein. U2, c'est peut-être le plus grand groupe de rock du monde, qui a fait les 40 ans de carrière quasiment. Et Bono est devenu fan des psaumes à l'âge de 12 ans quand sa mère est décédée. Et il vivait en Irlande. Et voilà, on peut imaginer le contexte des années 60. Et lui, il y a trouvé un énorme réconfort. Et c'est intéressant ce qu'il dit de David. Alors je cite, « Voyez-vous, David fut le premier chanteur de blues. En plus de louer Dieu, il était là à crier vers lui. Vous savez, où es-tu quand nous avons besoin de toi ? Nous sommes cernés de toutes parts. Ton peuple est affamé. Es-tu sourd ? Ce genre de choses. » Et il se lamentait, lui, cet esprit militant, ce poète musicien qui avait assez de foi pour croire qu'il avait conclu un marché avec Dieu. Il y croyait suffisamment pour s'irriter lorsqu'il semblait que Dieu n'honorait pas sa part du marché. Voilà ce que Bono dit en 1994. Et il a participé avec d'autres stars, avec des acteurs, des écrivains, à un projet en Angleterre qui s'appelait les Pocket Canons, et qui consistait à publier séparément les 66 livres de la Bible. En fait, c'est un monsieur, un jour, il voulait offrir le Cantique des Cantiques à sa femme, et puis il ne l'a pas trouvé, donc on lui disait dans toutes les librairies, bah, faut acheter tout le bouquin. Et il voulait juste le Cantique des Cantiques. Et donc il s'est lancé dans ce projet, et puis... Et puis la Bible est devenue accessible à pas mal de monde, à des gens qui n'auraient jamais mis les pieds dans une église. Et Bono a choisi de préfacer ses psaumes. Et voilà ce qu'il dit encore, et que je trouve intéressant dans ce que David vit à ce moment-là du psaume. « Mes psaumes favoris sont ceux qui expriment le sentiment d'abandon et de déplacement. » Le psautier a peut-être été à l'origine du gospel, mais en ce qui me concerne, c'est là ce qui est intéressant, c'est dans son désespoir que le psalmiste révèle véritablement la nature de sa relation toute particulière avec Dieu, dans sa sincérité, même lorsqu'il est rendu à la colère. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse ? Psaume 89. Ou encore, sois attentif à mes cris. Psaume 5. Et effectivement, dans ce passage, David, il est dans une sincérité totale. Il est à nu, il exprime ses sentiments à Dieu. Alors c'est clair qu'on sent bien son côté artiste et poète. David était musicien, poète, puisqu'il a écrit des chants. Et en même temps, ça témoigne d'une profonde connaissance de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, il est celui à qui l'on peut confier le côté le plus sombre de son existence. Ça peut faire peur, mais ça peut être rassurant aussi. Il est celui à qui on peut confier le côté sombre de son existence. Pourquoi ? Parce qu'il nous connaît de A à Z. Et on va voir que Dieu nous amène à la lumière. Il transforme ce côté sombre de notre existence et l'amène à sa lumière. Et c'est le deuxième mouvement. Donc on remonte dans le texte et on va au verset 7 jusqu'au verset 12. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. J'ai intitulé cette partie « Me voici, je viens ». Je sais que vous avez jeté en bas, mais vous avez chanté un chant qui disait un peu ça tout à l'heure. Alors cette partie du psaume, elle est prophétique, hein. Elle a été reprise dans le livre des Hébreux par Paul, et elle s'applique aussi à Jésus, à son ministère, de façon prophétique. Pour autant, moi je vais me concentrer juste sur le texte là tel qu'il est, et je pense que ça nous concerne également au même titre que David. Alors ces versets sont en fait le cœur du psaume, c'est pas juste parce qu'ils sont au milieu, mais c'est le cœur parce que en fait c'est marqué par la compréhension des attentes de Dieu, de notre part du marché, comme dirait Bono. Alors c'est pas un marchandage où David dirait « Écoute Dieu, moi je fais ça, et toi Dieu tu agis comme ça hein, ». Ce matin Hélène me disait « Dieu c'est pas un bancomate, ça, Dieu c'est pas un distributeur de billets ». Et je pense que bien souvent on réagit un peu comme ça. Alors David il dénonce en fait non pas le fait de faire des sacrifices, il remet pas en cause vraiment les rites religieux de son temps, mais il dénonce l'esprit qu'il y a derrière ça. Parce que pour tel péché, il fallait tel sacrifice. Hein. C'est très codifié, si vous lisez dans le livre du Lévitique ou des Nombres. Il fallait deux tourterelles pour tel péché, etc., etc. Alors on pourrait en rire, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est très différent ? Hein, il y a des systèmes religieux assez proches de nous, qui s'appelaient les indulgences, par exemple, où en fait, on rachetait un peu nos fautes à Dieu. Et peut-être que dans nos comportements fautifs, je parle en premier pour moi, on agit un peu comme ça, de façon comptable. Hein, on essaie de contrebalancer le mal qu'on a accompli par des actions compensatoires, voire des dons d'argent. Bon, faire un gros don, ça va bien effacer mes fautes. Un peu comme les Égyptiens l'envisageaient. Hein, il y avait, quand ils arrivaient dans l'au-delà, ils avaient la balance, et je ne sais plus quel dieu, Osiris ou Isis, sous-peser les bonnes actions et les mauvaises actions. Et si votre balance, elle avait la chance d'être un peu plus haute là, c'est bon, vous alliez dans la suite. C'est intéressant quand on étudie la Bible de regarder d'autres traductions, et j'ai trouvé une traduction un peu plus dynamique du verset 7 qui dit la chose suivante. Faire quelque chose pour toi, t'apporter quelque chose, ce n'est pas ce que tu attends. Être religieux, se comporter pieusement, ce n'est pas ce que tu demandes. Alors ce verset, ça fait écho aussi à ce que le prophète Samuel disait, hein, quand il mettait en garde Saül après une bataille, où Saül a été un peu au-delà de son rôle, et il dit « Mais l'obéissance, ça vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive, ça vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est dans 1 Samuel 15, 22. Alors ce mouvement dans le psaume parle en fait du salut. Et le miracle du salut, c'est que, en fait, Dieu nous ouvre les oreilles. Lorsqu'enfin nous reconnaissons qu'aucun sacrifice, aucune attitude ou action compensatoire ne peut couvrir nos fautes, Dieu nous ouvre en fait les oreilles. Cette expression « tu m'as ouvert les oreilles », elle est aussi traduite dans d'autres versions par « tu m'as percé les oreilles ». Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence ? Tu m'as percé les oreilles. Dieu est pour les piercings, en fait. Non ? Alors, c'est le contraire, justement. C'est-à-dire que dans la loi juive, tous les 6 ans, les esclaves avaient le droit d'être affranchis, d'être libérés. Et il pouvait arriver qu'un esclave refuse d'être libéré. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que son maître est bon. Et dans ce cas-là, le maître lui perçait l'oreille en disant, voilà, ça veut dire tu as fait allégeance toute ta vie pour moi. C'est le signe d'appartenance. Et c'est une image très parlante à l'époque de David. Plus que des sacrifices, Dieu attend en fait une obéissance illimitée, une soumission complète à sa volonté. C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être, qui a écrit des livres très intéressants, a dit une chose. Il dit « Dieu ne veut pas quelque chose de nous. Il nous veut simplement nous. » Alors c'est « Dieu ne veut pas quelque chose de nous. Il nous veut simplement nous en tant que personne. » C'est clair que des fois, c'est plus difficile. Ce chemin du salut, cette écoute attentive de Dieu, en fait, c'est pas seulement écouter, elle nous mène à une autre chose, elle nous mène à ouvrir la bouche. Et c'est la suite de ce passage. Hein. Elle nous amène à ouvrir la bouche pour annoncer quoi ? Annoncer la justice, annoncer la vérité, annoncer le salut de Dieu, sa bonté et sa fidélité. Et ça, c'est une clé intéressante aussi. On n'est pas appelé à être des ermites. Ouais, c'est bon, on est sauvé, on est à part, et on ne se préoccupe plus du monde dans lequel on vit. Le mouvement du salut nous amène vers l'autre. En effet, pourquoi taire une si grande nouvelle, si ça change nos vies ? Et au-delà de la proclamation, c'est aussi nos actions de tous les jours qui doivent être marquées par cette soif de justice et d'amour. Alors cette question d'avoir l'oreille ouverte, elle revient à d'autres endroits dans les prophètes. Et je citerai juste un verset d'Ésaïe 50, versets 4 et 5. Ésaïe dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. » Très beau verset que j'ai découvert en étudiant ce texte. Le disciple a un rôle. C'est pas de se retirer du monde, c'est d'aller vers l'autre. Et en particulier, c'est de soutenir celui qui est abattu. C'est intéressant comme idée. Parce que parfois, on est dans des contextes d'église où on est rapide à condamner et lent à faire grâce. Il n'y a même pas besoin d'être dans un contexte d'église, d'ailleurs. Il suffit de regarder un match de foot et de regarder les commentaires sur l'équipe.fr après. Ça balance dans tous les coins. Bon, l'image vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais en tout cas, à notre niveau, on est appelé à soutenir celui qui est abattu, à transmettre ce message d'espoir. Et on est en fait très loin des religieux de l'époque de Jésus qui condamnaient les gens autour d'eux et se positionnaient comme la référence absolue. On est en phase avec les attentes de Dieu, hein, les fameux pharisiens. C'est pour voir si vous suivez. D'ailleurs, il y a une bande dessinée sur les pharisiens. Mais c'est en fait les pharisiens. Enfin, c'est Oderc qui fait ça. Ces pharisiens qui se considéraient comme la référence de l'époque en matière de spiritualité et que Jésus passera son temps à considérer comme aveugles et sourds et autres insultes plus ou moins gentilles. Ouais, parce que ces sépulcres blanchis à l'époque, ça ne devait pas être une insulte très sympa, quoi. Ça veut dire tu viens d'outre-tombe. Un autre prophète, le prophète Michée, alors c'est un tout petit livre qui est intéressant, au chapitre 6, lui aussi à un moment donné s'interroge sur la valeur des sacrifices, le sens des sacrifices à son époque. Et Dieu lui révèle qu'il attend en fait trois choses de sa part plutôt que des sacrifices. Est-ce que vous connaissez ces trois choses ? Première chose, c'est pratiquer le droit. Deuxième chose, c'est aimer la bonté. Et troisième chose, c'est marcher humblement avec lui. Hein, ce verset qui a donné naissance à ces mouvements chrétiens de lutte contre la pauvreté, notamment le défi Miché en France. Pratiquer le droit, aimer la bonté et marcher humblement avec lui. Voilà, c'est le sujet d'un autre message. Mais en tant que chrétien, est-ce que nous faisons fructifier notre salut en proclamant la justice de Dieu dans ce monde ? Ou est-ce qu'on assiste passivement à ce qui se passe sous nos yeux ? Moi, je me pose la question. À 5 heures d'ici, en Méditerranée, il y a des gens qui meurent presque tous les jours. C'est des gens qui cherchent à fuir leur pays en guerre et personne ne veut les accueillir en Europe. C'est assez affligeant quand on réfléchit. Je ne vous dis pas d'aller prendre votre barque et aller les sauver, mais qu'est-ce qu'on fait face à ces injustices-là ? Est-ce qu'on les observe ? Est-ce qu'on se lamente ? Ou est-ce qu'on prend position et on va vers l'action ? Alors comment ce mouvement du salut est possible ? Pourquoi il est rendu possible dans ces quelques versets ? Des idées ? La grâce. Hein, c'est ce que dit David à la fin. « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Nous avons vraiment besoin des compassions de Dieu, de sa grâce, de sa fidélité, de sa bonté. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que dire « Me voici, je viens », c'est seulement en fait un premier pas sur un long chemin sur lequel Dieu veut nous emmener. Le salut, c'est aussi un processus, mais il faut un premier pas, ça c'est clair. Il faut pouvoir dire à un moment, je veux faire ta volonté. Le verset 9 nous donne une dernière clé sur le chemin avec Dieu. La parole de Dieu doit être gravée dans nos cœurs. Une autre version dit ça aussi d'une façon intéressante. La parole de Dieu est entrée dans ma vie, elle est devenue partie intégrante de mon être. Je redis. La parole de Dieu est entrée dans ma vie, elle est devenue partie intégrante de mon être. Alors, ça fait pas mal hein, à manger, être partie intégrante de notre être. Et si on considère que Jésus, c'est lui la parole qui a été faite incarnation, chair dans ce monde, il faut donc que Jésus devienne partie intégrante de moi. C'est dire le chemin qui reste à parcourir, après avoir dit « me voici ». C'est un chemin de disciple, c'est un long chemin, mais c'est à ce prix qu'on pourra agir et penser comme Jésus. Et ça prend du temps, ou plutôt ça demande à prendre du temps avec lui, pour mieux le connaître. Sommes-nous toujours assoiffés de le connaître ? Pour revenir au verset 17, vers la fin du psaume, hein, le verset 17 dit « Ceux qui te cherchent sont dans l'allégresse et se réjouissent. » Sommes-nous des chercheurs de Dieu ? Une autre traduction parle même de chasseurs. Est-ce qu'il y a des chasseurs dans la salle ? Des vrais chasseurs ? Non, c'est bien. Sommes-nous des chasseurs de Dieu ? Ou est-ce qu'on se contente de ce qu'on a déjà reçu et on vit sur ses réserves ? Hein, sur le gibier de l'année dernière qu'au congélateur. Pour ma part, j'ai souvent tendance à me satisfaire de mes acquis, de mes réserves. Sauf que celles-ci, eh ben, elles deviennent de plus en plus lointaines, elles s'amoindrissent comme peau de chagrin au fil du temps. Alors oui, la joie du salut est là, mais est-ce qu'on n'est pas appelé à un peu plus que ça ? On va passer au troisième mouvement qui est en fait les premiers versets de ce psaume, et j'ai intitulé ce passage « Je chante la grandeur de Dieu ». On va le lire. « J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Après ces deux mouvements, je ne vois plus rien et me voici, je viens, on arrive à ce troisième temps. Et c'est le temps le plus important quelque part. Je chante la grandeur de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'on a notre souffle tous les jours. Et effectivement, c'est pas pour rien que ça commence par ça, parce qu'on devrait toujours avoir cet esprit de reconnaissance et de louange. Ne serait-ce que pour le souffle qu'on a justement tous les matins en se levant. Rien que de se réveiller le matin devrait même nous inspirer des louanges plutôt que... Ah non, c'est déjà le matin. Ça vous arrive le matin de... Alors des fois de ne pas entendre le réveil, ça m'arrive. Mais des fois de l'éteindre tout de suite et de se rendormir, ça m'arrive aussi. Puis des fois de me réveiller quand même, puis de me dire, mais vivement ce soir. Allez, à qui ça arrive? Je ne suis pas le seul quand même. Ah, voilà, merci. Belle solidarité. Et bien dès le matin, si on pouvait entrer dans cette dynamique de louange, ça serait extraordinaire. Encore du chemin. Le premier verset fait, enfin le verset 2 en fait, fait écho au dernier verset du psaume. David appelait Dieu à ne pas trop tarder à intervenir. Et ce premier verset semble dire que Dieu, il a mis le temps qu'il a mis, mais il a fini par intervenir. Et dans une autre version encore, ce verset est traduit de la façon suivante. J'ai attendu et attendu et attendu Dieu. Finalement, il m'a vu, enfin, il m'a écouté. Quand on se sent dans une situation qui n'a que trop duré, en tout cas de notre point de vue, lorsqu'on a attendu encore et encore que Dieu intervienne et qu'il semble tarder, à quoi faut-il s'attacher? À une chose, ce que dit David, l'espérance. Attachons-nous à l'espérance, cette espérance qui ne faillit pas, cette espérance qui a pris sa source dans notre salut, une fois qu'on a dit « me voici, je viens ». Une espérance qui est inspirée par deux choses, notre connaissance intellectuelle de Dieu et nos expériences avec lui. Si vous avez juste des expériences intellectuelles avec Dieu, il y a un blocage quelque part. Il doit intervenir dans votre vie, d'une façon ou d'une autre. Alors il intervient en nous maintenant en vie, certes, mais ça peut aller plus loin. Alors on ne comprend pas toujours pourquoi certaines situations durent au-delà de ce qu'on semble pouvoir supporter. C'est vrai. Pourquoi Dieu n'intervient pas plus vite? J'ai pas de réponse. Mais en tout cas, David a vécu la même situation. Et pour lui, sa vie même était en jeu. Et à ce moment-là, il n'a pas eu honte de faire monter ses cris et incompréhension à Dieu sur sa situation. Et je pense qu'on peut aussi le faire. Dieu attend de la sincérité de notre part. Avec respect, mais sincérité. Et au-delà de ces incompréhensions, il attend une autre chose, il attend une pleine confiance en lui. Le genre de confiance qui a fait dire aux amis de Daniel, vous connaissez peut-être cette histoire, alors qu'il refusait de se prosterner devant une statue que le roi avait fait ériger, et il préférait prier Dieu, et ben, c'était un décret royal, on était obligé de se prosterner. Ils ont dit non, mais nous on ne peut pas faire ça. Quelqu'un les a dénoncés, ou on les a vus. Et le châtiment, c'était de se faire mettre au bûcher. Hein, c'était avant Jeanne d'Arc, d'autres personnes, dans la fournaise ardente. Et ils ont dit une chose qui m'a toujours marqué depuis que je connais cette histoire. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Waouh, c'était droit dans leurs bottes, ces Israélites, devant le roi tout-puissant de l'époque quand même. Hein. D'ailleurs, ça ne lui a pas tellement plu parce qu'il a fait chauffer bien plus fort la fournaise. Il s'est dit cela, on va bien les cramer. Alors, c'est fou. C'est fou parce qu'ils envisageaient que Dieu puisse choisir de ne pas intervenir. Ou alors il bluffait, peut-être. Et pourtant, Dieu, dans ce cas-là, ne pouvait pas trop tarder, parce que, ben voilà, il suffit de quelques secondes, et puis question de vie ou de mort. Hein, ce n'est pas cuisson lente. En tout cas, ils ont manifesté une totale confiance en Dieu, une totale espérance qu'il était capable d'intervenir contre les lois physiques. Et c'est ce qu'il a fait. Quand ils sont sortis, ils ne sentaient même pas le brûler. Pour revenir au psaume, quand Dieu intervient, il ne fait pas les choses à moitié. Et ça, je voudrais vous encourager, parce que peut-être vous êtes dans des situations compliquées. Quand Dieu intervient, il ne fait pas les choses à moitié. Et David le dit d'une façon intéressante. Il était dans la boue. Hein, on dirait aujourd'hui qu'il était dans la mouise jusqu'au cou, pour rester poli. Et Dieu l'a arraché de cette fosse de boue. Moi, je vois bien l'image. Dieu m'a arraché et il m'a mis sur le rocher ferme. Il l'a placé sur une zone de sécurité stable, bien solide. Belle image de ce à quoi notre espérance peut mener. Une situation stable, une situation apaisée, que ce soit dans notre relation avec notre conjoint, avec nos amis, dans notre travail. Le rocher, c'est aussi Jésus. Et c'est clair que de se sortir de situations compliquées, eh ben, ça nous rapproche encore de ce rocher. Hein, on a les pieds fermement établis sur lui, sur notre Sauveur. Et la louange prend alors ce mouvement de louange, de chanter la grandeur de Dieu, il prend tout son sens. Il prend tout son sens, il plein d'hyperboles hein, au verset 6. « Personne n'est comparable à toi. Je voudrais raconter et proclamer le nombre de tes merveilles, mais le nombre est trop grand pour en faire le compte. » Incroyable de pouvoir réussir à dire ça. Ça a une dernière fonction de raconter les merveilles de Dieu. Et peut-être votre entourage n'est pas croyant et pas acquis à la cause de Jésus, n'a pas fait ce chemin dans votre cœur, dans son cœur, dans leur cœur, pardon. Et ça a une dernière fonction, conduire notre entourage à se confier en lui. Hein, au verset 4, beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Et Calvin dit à ce sujet une chose, il dit « Quand Dieu accorde un bienfait à l'un de ses enfants, il veut que ce soit un témoignage de sa bonté envers tous. » Et si on lit la suite, il fait aussi remarquer que c'est avec raison que la crainte est nommée avant la confiance. Parce que pour espérer fermement en la grâce de Dieu, il faut avoir commencé par craindre ses jugements ou avoir compris qu'on est faillible. Voilà, donc trois mouvements. La difficulté, le chemin du salut, et finalement nos louanges qui peuvent remplir l'assemblée et nos cœurs. Pour conclure, je dirais que le psalmiste en vient, et c'est un des versets que je n'ai pas trop pris, mais il en vient à chanter un cantique nouveau. Alors, je pense que ce matin, il y a eu pas mal de cantiques nouveaux, hein, j'entendais d'en bas, bon, plus ou moins nouveau. Un cantique nouveau, hein, un chant qui exprime en tout cas la réalité de l'intervention de Dieu dans sa vie. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai cité plusieurs fois le chanteur Bono tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des idées? Ah, vu que vous connaissiez déjà pas Bono et U2, il n'y aura pas trop d'idées. Mais est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Non. Oui. Oui, vas-y. Il a lâché quoi? Ah, je vais te prêter un bouquin que je viens de lire, justement qui m'a inspiré. Ouais, c'est le grand débat chez les chrétiens. Est-ce que U2, c'est un groupe qui transmet le message de Dieu ou pas? Bon, je mettrai un bouquin dans la bibliothèque, très bien fait, qui épluche 30 ans de carrière. Et pour l'avoir lu, moi, je suis assez convaincu que Bono, c'est vraiment quelqu'un d'engagé. Il l'a montré aussi dans ses actes, hein, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui restent là, mais lui, il a participé, par exemple, au jubilé de l'an 2000, à effacer la dette du tiers-monde, partiellement, grâce à ses interventions avec le pape de l'époque et tout ça. Et puis il a créé une fondation contre le sida, enfin voilà, il a fait pas mal de choses. Alors après, ça reste une rockstar, c'est clair. Mais si tu lis le bouquin que je te prêterai, mais Laetitia doit le lire d'abord. Dieu seul juge. Mais en tout cas, pour revenir au fait de pourquoi j'ai en fait parlé sur ce psaume, c'est que U2 a fait un chant à partir de ce psaume. Une chanson qui s'appelle 40. Et si c'était dans l'album War, donc qui est l'album où il y avait Sunday Bloody Sunday aussi, que vous connaissez peut-être. Je ne fais pas le rythme de batterie, mais il est sympa. Et il dit une chose sur la naissance de cette chanson. Il dit, quand nous faisions l'enregistrement de notre troisième album War, nous avons été expulsés du studio par le manager parce que nous avions dépassé le temps à disposition ou quelque chose comme ça. Mais nous avions encore une chanson à faire. Nous avons écrit cette chanson en une dizaine de minutes, nous l'avons enregistrée en une dizaine de minutes, nous l'avons mixée en une dizaine de minutes, et nous l'avons jouée ensuite pendant encore 10 minutes, et ça n'a rien à voir avec le nom de 40. Et voilà comment U2 a composé un psaume pour la fin d'un album qui parlait beaucoup de politique, de guerre, avec cette chanson sur l'Irlande du Nord. Et cette chanson-là a d'ailleurs été une chanson chantée pendant, en tout cas entre 1983 et 1990, quasiment à chaque fin de leur concert. Et j'étais assez impressionné, parce que vous allez voir, elle est sur le bureau, si tu peux la... Alors c'est un clip, enfin c'est le concert, et c'est sous-titré, bon les paroles sont en anglais, mais c'est vraiment inspiré des versets 2 et 3. Et c'est juste pour dire que, voilà, il y a plein de gens non-croyants dans ces concerts d'U2, et ils finissent leur concert en chantant un psaume qui est très explicite. Voilà, je vous propose de l'écouter pour terminer.
Sing it. made my footsteps firm. Many will see, many will see in you.
Il quitte la scène et les gens continuent à entonner ce psaume sans être chrétien. C'est assez, voilà, assez étonnant. Voilà, je voudrais juste prier pour terminer ce moment et puis rendre la place à Jonathan. Ouais, Seigneur, merci parce que comme David, nous pouvons t'exprimer nos situations, nous pouvons les crier. Nous pouvons te les confier et tu peux intervenir. Tu nous remets sur le rocher qui est ton fils Jésus. Merci parce que tu nous emmènes sur ce chemin du salut et sur ce chemin de plus de connaissance de toi, de pouvoir expérimenter tes bienfaits et ta bonté dans nos vies. Merci Seigneur aussi de nous aider à nous saisir de ces promesses parce que c'est bien beau quand c'est écrit, mais quand on doit le vivre, quand on essaye de le vivre et que c'est compliqué, toi tu es là aussi pour nous épauler, pour nous faire grâce. Et je veux te prier en particulier pour ceux qui passent par des situations où ils ne voient pas le bout, où ils ne voient pas, où leur regard est bloqué comme dans du brouillard, que tu puisses vraiment intervenir puissamment et que tu puisses aussi donner cette paix dans ces moments, cette confiance apaisée en toi. Amen.